RMC, 14h-18h, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Et jusqu'à 18h, effectivement, nous sommes ensemble pour vous faire vivre cette 10e étape du Tour de France, la grande boucle qui a quitté Andorre pour réintégrer le territoire français en direction de Revel, sous des conditions météo pas vraiment excellentes aujourd'hui. Il fait un peu froid et il bruine sur la tête de course. On va y retourner d'ailleurs à l'avant de la course avec le groupe de tête accompagné par la moto RMC, Georges Quirino et Marc Combes qui sont au contact.
Exactement, avec juste à notre droite, on pourrait tendre le bras et le toucher, le maillot arc-en-ciel de Peter Sagan qui est en train de remonter parce qu'il s'est arrêté. Peter Sagan, il a changé de vélo. Il s'est arrêté pour changer de vélo. Peter Sagan qui est en danseuse là en train d'essayer de revenir sur les 14 coureurs de tête. Magnifique maillot arc-en-ciel. Il a même les jantes de ses roues qui sont en arc-en-ciel. Peter Sagan avec ses chaussures dorées complètement bling bling pour le Slovaque qui est tranquillement en train de revenir et de reprendre sa place. On est dans la roue de Peter Sagan. Je pense que ça fait plaisir à Marco là qui est derrière lui. On voit qu'il discute avec tous les directeurs sportifs qu'il croise sur son passage, le directeur sportif de Movistar, le directeur sportif d'AG2R La Mondiale. Il discute avec tout le monde tranquillement. Peter Sagan en toute détente juste à côté de nous qui va reprendre sa place. C'est dommage qu'on puisse pas faire les interviews de coureurs comme avant hein, parce que là on pourrait le faire hein. On pourrait faire une interview avec Peter Sagan
du tout,
qui est juste avec nous à côté de nous qui a ouais non on va pas le faire qui a un petit comme un catogan là derrière maintenant façon Zlatan. Il a les cheveux tellement longs maintenant le champion du monde et envoie dans la voiture rouge là, de l'organisation un invité qui est en train de sortir la tête pour faire un selfie avec Peter Sagan qui passe à côté de lui voilà pour la remontée tranquille du populaire Sagan qui a donc changé de vélo et qui est en train de revenir désormais dans le groupe de tête.
Voilà, et ça sent bon, Fred, pour Peter Sagan et pour ces hommes du groupe de tête, parce que leur avance qui était bloquée à 6 minutes il y a quelques kilomètres, eh bien, montée désormais à 7 minutes, et on se rapproche quand même de l'arrivée, 90 kilomètres. Si ça se réveille pas maintenant, ça pourrait être bon pour les hommes de tête. Il y a quand même du beau matos, comme on dit devant.
Hein. Ouais, il y a du beau monde, effectivement. 9 des 15 coureurs de l'échappée ont déjà remporté une étape sur le Tour de France. Parmi les 15 également, on a 6 anciens porteurs du maillot jaune. Voilà, niveau statistique. On rappelle la composition de ce groupe de tête à 90 km de l'arrivée. Peter Sagan, donc Georges en a longuement parlé, le plus emblématique coureur du peloton en ce moment, le champion du monde. Il est accompagné notamment de Rui Costa, le portugais, lui aussi ancien porteur du maillot arc-en-ciel. Michael Matthews, le sprinter australien, est là avec ses équipiers Luke Durbridge et Daryl Impey. Notez la présence de Stephen Cummings, vainqueur de l'étape du lac de Payol en première semaine. Gorka Izagirre, l'espagnol. Damiano Caruso et Greg Van Avermaet, les deux coureurs de l'équipe BMC. Le champion de Norvège, Edvald Boasenhagen. Et puis, n'oublions pas Vincenzo Nibali, bien sûr, le vainqueur sortant du Giro, vainqueur du Tour de France il y a 2 ans, complètement hors jeu pour le classement général et qui vise des victoires d'étape. Concluons cette composition du groupe de tête avec les 3 Français, Samuel Dumoulin chez AG2R La Mondiale, Sylvain Chavanel pour Direct Énergie et Tony Galopin, le coureur de l'équipe belge Lotto Soudal. 7 minutes 05 à 90 km de l'arrivée, ça bouge un petit peu devant dans de longues portions en faux plat descendant. Il pleut sur la route du Tour aujourd'hui.
Alors qu'un membre éminent de l'intégral Tour vient de nous rejoindre après avoir fait l'étape, avoir reconnu notamment le final, Jérôme Pinault est avec nous. Comment ça va, monsieur GG?
Ça va très bien. Bonjour à toutes et à tous. J'ai effectivement reconnu le final pour me remémorer un peu cette côte de Saint-Ferréol que je connais, que j'ai passé à vélo. La dernière fois, c'était très loin des premiers, d'ailleurs. Et c'est un beau final, en tout cas, un beau groupe de tête. Un beau final, on a assisté aussi, vous savez, on a la radio Tour dans la voiture, donc on a écouté, on a un Sagan on fire aujourd'hui. Il a attaqué 15 fois, je pense, il a même attaqué dans le col d'Envalira. Dès que ça se relève un peu, le champion du monde en remet une couche. Il va être très difficile à battre. En tout cas, aujourd'hui, il annonce la couleur parce qu'il est dans tous les coups, Sagan.
Voilà, il annonce clairement la couleur, mais il a aussi réalisé un changement de vélo. Et ça n'est pas anodin, le changement de vélo, puisque au départ, on est parti avec une roue libre de montagne parce qu'il fallait bien passer à 2400 mètres et qu'il a dû reprendre un vélo avec maintenant les braquets adaptés à une étape de plat.
D'accord. J'ai quelques infos sur les braquets, mais ça fait partie de ma musette. Vous en saurez plus.
Voilà, le bon teasing de Jérôme Pinault qui va nous parler de sa musette dans quelques instants. Auparavant, eh bien, on va donner la parole au druide justement, puisque c'est l'heure de la recette du druide qui va donc s'adresser à l'un des coureurs. Je ne sais pas si c'est un coureur du groupe de tête ou un coureur du peloton. Bref, c'est l'heure de la recette du druide. C'est parti.
RMC Intégral Tour.
Cette potion donne une force surhumaine. Elle donne une force, mais d'une force.
La recette du druide.
La potion magique, ça n'existe pas.
La potion magique, ça n'existe pas. Cyril,
si, ça existe.
Ah bon, ça existe encore.
Oui, ça existe.
Je croyais que ça n'existait plus dans le vélo.
Ça existe partout, la potion magique. Ben oui.
Bon, alors
c'est pas un coureur. En fait, c'est à une équipe par rapport à un coureur, puisque on va aller en direction de l'équipe Direct Énergie et bien sûr de Brian Coquard, qui aujourd'hui a gros à jouer, surtout avec le final tel que nous l'avons. Donc dans cette étape, il faut absolument que ça arrive au sprint. Donc on a la montée dans un premier temps du col d'Envalira. Donc là, sur cette montée, on essaye de limiter la casse. Et surtout, il faut que tu arrives à passer pas trop loin. De toute façon, logiquement, ça rentrera dans la descente. Mais il faut quand même que... Il y a un coup qui va partir, ça va partir vite de toute façon, parce qu'il y a le classement de la montagne à faire là-haut, donc on va avoir un départ rapide, et il faut qu'on glisse quelqu'un dans le coup de devant. Alors, il n'y en a pas 50 chez nous qui peuvent y aller dans un col comme ça, il y a Sylvain, il y a Romain, à vous deux, il faut pas rater le bon coup. Après, il va falloir voir comment les choses se passent. Mais il faut absolument qu'à un moment, si cet échappé s'en va trop loin, faudra peut-être mettre en route avec les équipes qui auront intérêt de rouler, mais il faudra surtout pas mettre en route trop tard. Il faudra mettre en route, mais avec seulement deux gars ou trois gars. Là, vous verrez qui est le moins bien, parce qu'on fait toujours rouler ceux qui sont le moins saignants pour essayer d'arriver le plus près possible de la côte de Saint-Ferréol. Donc on essaiera quand même de garder, si c'est possible, Tulik pour le final. Sinon, dans le final, eh bien, il faut absolument qu'on passe à trois là-haut. Il faut passer à trois là-haut, parce qu'il reste 7 kilomètres. Il faut pas que Brian se retrouve tout seul à une borne et demie de l'arrivée. Il faut qu'on ait encore deux ou trois gars. Alors, suivant celui qui sera dans la bonne échappée, on verra derrière. Mais il faut absolument que Tulik, tu passes. Il faut que Thomas, tu passes. Il faut qu'on ait deux gars pour rouler derrière. Antoine, tu dois aussi passer. On verra bien qui va aller rouler. C'est vous qui décidez. Donc, il faut trois gars en haut de Saint-Ferréol, mais il faudra aller chercher quand même l'échappée, les gars.
Hein. Et oui, parce que pour l'instant, l'échappée, elle est loin quand même. 7 minutes d'avance, et on rappelle que Brian Coquard a l'un de ses équipiers dans ce groupe de tête, en l'occurrence Sylvain Chavanel, qui a quand même quelques libertés au sein de la formation Direct Énergie. Jérôme, tu le connais, c'est l'un de tes meilleurs amis. Il dispute peut-être sa dernière année de cycliste professionnel. Aujourd'hui, il travaille pour lui, ou il peut servir justement pour les objectifs de Brian Coquard tout à l'heure.
Ah, écoute, j'ai passé la matinée avec ses proches, sa famille et sa femme et ses parents qui étaient là, et j'ai discuté un peu avec Sylvain ce matin au départ. Aujourd'hui, il avait pointé cette étape. Son objectif, et c'est exactement en phase avec ce que disait notre druide, c'est que Sylvain voulait se glisser dans l'échappée pour ne pas rouler ensuite devant, en faire le moins possible, car il a Brian Coquard derrière. C'est vrai qu'il fait partie des coureurs qui ont la liberté d'agir dans cette équipe, au même titre que Thomas Vauclair. Sylvain est retourné chez Jean-René pour terminer sa carrière, pour se faire plaisir, et sur ce genre d'étape, on le sait, il est capable de se faire plaisir. Il avait déjà fait un grand numéro il y a de cela quelques années avec Juan Antonio Flecha. Ils avaient passé la journée à deux sur les routes de Revel, et on avait été les chercher seulement dans Saint-Ferréol. Là, Sylvain, il est dans la situation idéale, parce qu'il est devant, il est bien dans sa tête.
Il prend pas trop de relais.
Il prend pas de relais parce qu'il a un sprinter derrière, et que voilà, il a le favori ou l'un des favoris de l'étape, et il fait bosser aussi Sagan et Matthews, qui sont eux les aussi deux grands favoris, quoi, deux grands adversaires de Coquard. Donc pour l'instant, il est dans un fauteuil. Maintenant, il faudra avoir la bonne jambe quand même. Il y a du beau monde dans cette échappée. Hein.
Il y a du très beau monde. Tu cites Sagan et Matthews. Rappelons également la présence de Boasson Hagen, donc, et de Greg Van Avermaet.
Et de Puncher en plus, qui peuvent démarrer. préparer un Tony Galopin, ça va être compliqué.
Tout ça, c'est des coureurs qui sont sur leur terrain dans cette fin d'étape avec cette côte de Saint-Ferréol. On a d'ailleurs l'habitude de voir plusieurs de ces coureurs-là dans les classiques flandriennes au mois de mars, au mois d'avril. Voir en ce moment Peter Sagan aux côtés de Greg Van Avermaet, ça nous rappelle des épisodes un peu plus tôt dans la saison, que ce soit sur les classiques ou sur Tirreno-Adriatico. Il pleut aujourd'hui, c'est quasiment un temps hivernal, printanier, automnal, comme vous voulez. Ça a des airs de classique, cette étape qui culminait quand même à 2400 mètres tout à l'heure à la sortie d'Andorre.
C'est aussi Frédéric, ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est peut-être plus facile de dire quels sont les coureurs qui sont les moins bons dans cette échappée que les bons.
Et c'est la preuve, Cyril, qu'aujourd'hui sur le Tour, il n'y a plus d'échappée bidon, quoi. C'est vraiment le.
Non, là, ça n'est pas bidon.
Dès que tu es devant dans le Tour, c'est que c'est un top mondial, quoi. Aujourd'hui, l'échappée, là, voilà, comme tu dis. C'est plus facile de dire qui est à peu près le moins bon, et encore que, parce qu'on va citer Durbridge, mais Durbridge est capable de s'imposer tout seul aussi. C'est un gros rouleur, il y a pas de petits coureurs devant. Avec un parcours comme aujourd'hui, on savait très bien que l'échappée qui irait sûrement au bout serait composé que de coureurs top mondial, et c'est ce qui se passe, quoi.
Là, avec 6 minutes 45 d'avance à 83 km de l'arrivée, on peut dire que l'échappée ira au bout, messieurs, ou pas encore?
Moi, je pense que oui, parce que devant, tout simplement, il y a les meilleurs, quoi. Ouais. Et que derrière, l'équipe qui va rouler, va falloir qu'on s'y mette tous et qu'on s'entende très bien. Et même 4 minutes, c'est difficile d'aller chercher ce genre de coureurs qui vont s'entendre jusqu'à 10, 15, 20 kilomètres de l'arrivée. Après, ça risque d'être le bazar. Mais il va falloir qu'on soit très fort derrière quand même.
Le problème, c'est qu'il y a certaines équipes qui ont des coureurs, des représentants, certaines équipes de sprinteurs qui ont des représentants à l'avant. Diamond Shandata ne va pas rouler sur Stephen Cummings, le Britannique qui est à l'avant.
Ni sur Boissonhagen.
Voilà. Lotto Soudal ne va pas rouler. Lotto Soudal d'André Greipel ne va pas rouler sur Tony Galopin.
La seule équipe, c'est Katusha.
Katusha pour Alexander Christophe, mais Christophe, il risque de prendre un coup de poignard dans le dos dans la côte de Saint-Ferréol. Ce sera peut-être un peu dur pour lui. Il a plus la condition du Christophe d'il y a un ou deux ans. Idem pour Kittel. Les Etix Quickstep n'ont pas de représentant dans le groupe de tête. Mais si c'est pour mettre toute une équipe à la barre toute la journée et se faire planter dans la côte de Saint-Ferréol, je vois pas bien l'intérêt, à mon avis.
On peut aussi jouer la carte à la Philippe pour Etix Quickstep, parce que on arrive dans la bosse. Si on revient tout près, on peut éventuellement penser que Julien peut tenter quelque chose. Mais c'est vrai que si on voit pas Katusha et Etix, qui seraient les deux seules équipes roulées, venir maintenant et pas avec deux coureurs, il faut qu'ils viennent avec 4
avec
ou 5.
Ouais.
Il faut être au moins 10 pour aller chercher les cocos de devant, et pour moi ça semble difficilement envisageable.
Ça semble envisageable, mais on peut avoir d'autres équipes qui viennent parce que il y a des équipes qui peuvent pas gagner 50 étapes sur ce tour. On peut très bien voir l'équipe Fortuneo pour Maclay venir donner un coup de main et tenter l'équipe Cofidis pour Laporte, qui peut apporter quelques coureurs à tourner lorsque ça va mettre en route. On a Giant aussi qui peut peut-être tenter, s'il a de bonnes jambes, s'il a retrouvé ses jambes, et on l'espère pour lui, pour Degenkolb, qui passe bien ce type de difficulté sur le final. Tout n'est pas encore joué. Pour moi, il y a encore des capacités d'entente à l'arrière de quelques équipes pour essayer de revenir sur le groupe de tête.
Là, on est dans un moment clé, hein, Cyril. On parle souvent d'actes et de courses à plusieurs temps. Et là, on est dans un moment clé entre le 80e et le 60e kilomètre, jusqu'à 50 bandes de l'arrivée. Si on ne voit pas 3 voire 4 équipes mettre 2 coureurs et s'entendre parfaitement, on n'ira pas chercher cette échappée, c'est sûr.
C'est exact. Donc, que les décisions soient prises. Il doit y avoir des briefings en ce moment, des débriefings dans la directeurs sportifs.
Ça doit discuter et ça doit parler dans les oreillettes en ce moment. Allez, Fred, on va faire un nouveau point chronométrique à quelques 81 km de l'arrivée de cette 10e étape, le top course.
Avec toujours cette échappée royale, qualifions-la ainsi, cette échappée royale à l'avant de la course qui compte près de 7 minutes d'avance. L'écart est stabilisé. Ce sont deux coureurs de l'équipe Yam Cycling qui emmènent le peloton avec les Sky dans leurs roues. Devant, on a le gratin du cyclisme mondial. Quand on parle de coureurs d'un autre type que les prétendants à la victoire finale à Paris, jugez plutôt Peter Sagan, Rui Costa, Vincenzo Nibali, Michael Matthews et ses équipes coéquipiers Durbridge et Impey, Greg Van Avermaet et son équipier Caruso, un Espagnol Gorka Izagir, le champion de Norvège Edvald Boasson-Hagen avec son équipier Stephen Cummings, vainqueur au lac de Payolle en première semaine, et puis les Français Tony Galopin, Sylvain Chavanel et Samuel Dumoulin. 15 coureurs qui s'entendent bien à 81 km de l'arrivée. Écart stabilisé à 6 minutes 50 sous la pluie ariégeoise en direction de Revel.
Allez, on va mettre nos impairs et on revient pour la suite de cette 10e étape avec toutes les infos ramenées par l'équipe de l'Intégral Tour. Ce sera l'heure de la musette dans un instant.
RMC Intégral Tour. RMC Intégral Tour. Christophe Cessieux.
La 10e étape du Tour de France au programme des coureurs du peloton. Aujourd'hui, nous sommes à 77 km de l'arrivée à Revel, où sera donc jugée l'arrivée tout à l'heure. On va retourner à l'avant de la course avec Georges Quirino sur la moto RMC qui se trouve en compagnie des hommes de tête qui possèdent au dernier pointage 6 minutes 30 d'avance sur le peloton. Georges.
Exactement, derrière ce groupe de tête, on est toujours dans le département de l'Ariège sous une fine pluie depuis plusieurs kilomètres maintenant. 16 degrés sur la route du Tour de France, derrière ce groupe de tête qui est à 3 km maintenant du sprint intermédiaire de Aigues-Vives. Et on voit le maillot arc-en-ciel de Peter Sagan qui est en train de bien se positionner dans ce groupe pour aller chercher dans quelques instants le maximum de points, alors que derrière c'est Mikel Landa, le coureur Sky de s'était échappé, qui est en grande conversation avec Service Naven, son directeur sportif. Donc ça y est, enfin, une voiture de l'équipe Sky a finalement rejoint ce groupe de tête alors qu'on se rapproche du sprint intermédiaire.
Merci Georges, on revient vers toi pour le sprint intermédiaire, mais à 15h24 c'est l'heure d'ouvrir la musette du Tour de France de l'Intégral Tour.
Il veut.
RMC, Intégral Tour, la musette.
Alors, il nous a teasé tout à l'heure, il nous a allumé notre ami Jérôme Pinault, il avait des informations à nous donner concernant
les braqués, exactement. Les braqués.
Alors, il faut expliquer, évidemment, parce que tout le monde, par exemple, Sarah Pitkowski vient de nous rejoindre, au niveau des braqués, elle comprend rien.
On
du
va
tout.
Lui expliquer.
Donc, il faut que tu lui expliques, Jérôme.
Eh bien, tout simplement, aujourd'hui, on est parti dans le col dans Valira, alors on le sait, on utilise des braqués plutôt de montagne, on a un petit plateau, 37, 38, 38 dents, 39 dents pour beaucoup, 41 pour certains, et puis à l'arrière, on a mis la grande cassette. Alors aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir 11 vitesses à l'arrière sur les vélos, donc c'est pas un problème. Mais par contre, certains coureurs ont bien étudié le parcours et se sont aperçus qu'eh bien une grande partie, si ce n'est la majeure partie de l'étape d'aujourd'hui, se dispute en descente. Et donc on a changé un peu les développements du côté de ces coureurs-là, et notamment de Sylvain Chavanel de l'équipe Direct Energy, qui d'habitude roule avec un plateau à l'avant de 53 dents, et qui aujourd'hui, Sylvain, a choisi de faire la course et donc est passé sur un 54 dents, c'est-à-dire qu'on a une dent de mieux encore pour toutes ces parties-là, parce qu'on se doutait, notamment du côté de Sylvain, que ça se jouerait beaucoup dans la descente du col d'Envalira vers Aix-les-Thermes. Et du coup, on a augmenté un peu la bracasse et Sylvain a opté pour un plateau qu'il utilise habituellement sur les contre-la-montre. Donc, il a l'habitude de ces braquets-là. C'est un développement un peu plus important pour notamment toutes ces parties descendantes,
ouais. Sur le plat descendant. Alors, on le disait tout à l'heure, il y a quand même deux profils différents dans cette étape. Ça a commencé par la montée rude et longue jusqu'au port d'Envalira. Et ensuite, la descente, certains ont choisi de changer de vélo, ce n'est pas le cas de tout le monde.
Tout à fait, voilà. Je pense que Peter Sagan a opté pour la même option que Sylvain, avec un plateau un peu plus important pour la deuxième partie, mais lui a changé de vélo. Sylvain n'avait pas changé de vélo, il a choisi de partir avec son vélo traditionnel, le braqué de montagne pour la montée, pour la première montée dans Valira, 39, 25, 27, et puis ensuite on a mis un 54 pour toutes les parties descendantes. Certains ont changé de vélo, pas d'autres, d'autres ont anticipé, ou d'autres n'avaient tout simplement pas assez confiance en eux pour dire je vais avoir le temps de changer de vélo, donc on a pris directement le braquet de descente. Donc Sylvain est là à 54-11, et s'il est capable d'accompagner les meilleurs en haut de Saint-Ferréol, il va pouvoir l'utiliser dans la descente.
Très bien, nous repartons à l'avant de la course, le sprint intermédiaire qui est lancé par un certain Peter Sagan, Georges.
Oui, à Aigues-Vives, il a pris quelques mètres d'avance, ça va pas se jouer, hein. Derrière lui, on a laissé tranquillement Peter Sagan aller chercher, voilà, à l'instant, sur la ligne, le maximum de points. Il a regardé derrière lui, notamment si Edvald Boasson-Hagen peut-être n'allait pas essayer de défendre les points pour son coéquipier Marc Cavendish qui porte le maillot vert. Ça n'a pas été le cas. Il a pu tranquillement le maillot arc-en-ciel de Peter Sagan prendre tous les points ici à Aigues-Vives sous une fine pluie. Et puis tiens, juste un petit mot, Christophe, il y a dans une voiture voiture de l'organisation de course, une voiture rouge, un invité qui nous a salué, il s'appelle Guillaume et il a gagné grâce à RMC le droit d'être aujourd'hui dans cette voiture. Donc il est venu nous dire merci beaucoup à RMC, je suis sur la route du Tour d'Arles échappé grâce à vous aujourd'hui. Voilà, on est bien content pour Guillaume qui est là.
Et j'aurai de belles choses à vous faire gagner encore une fois tout au long de la journée. Jérôme, tu voulais poser une question à
Georges, est-ce que tu peux me confirmer qu'à l'arrière de ce groupe de tête, Sylvain Deschavanel ne collabore pas? Est-ce que tu me confirmes que Sylvain, il reste dans les roues, il passe pas
de relais? Exactement, Jérôme. Ouais, depuis plusieurs kilomètres maintenant, on est bien positionné là derrière. On le voit toujours dans les dernières positions. On le voit jamais à l'avant. On voit beaucoup les Orica Greenwich qui sont nombreux, qui sont trois dans cette échappée. Mais Sylvain Chavanel, lui, reste dans les dernières positions de ce groupe, effectivement.
Ce qui explique qu'on joue quand même la carte cocard du côté de Direct.
C'est normal, il suit les consignes.
Ouais, il applique les consignes à la lettre. Cyril, est-ce que tu aurais une petite info dans ta musette à nous livrer aujourd'hui?
Oui, c'est une info sympa d'ailleurs, qui n'a rien à voir avec la technique des braquets et des développements. Enfin, j'espère que Sarah a bien tout compris. Bonjour, Sarah.
Elle s'est endormie.
Elle a mis le petit braquet alors. Oui, alors, vous savez que sur ce Tour de France, eh bien, il y a une première. Alors, je sais pas si ça va se renouveler ou si ça va tout simplement devenir une habitude. Eh bien, tout simplement, aujourd'hui, on va marier un couple avant l'arrivée des coureurs.
Ça a été fait. On a entendu tout à l'heure la musique de mariage.
Oui.
Ça a déjà été fait.
Je me demandais d'ailleurs si c'était pas Cyril qui convolait de nouveau.
En juste noces.
C'est fait. Elle va pas se marier tous les ans quand même, Cyril.
Ça aurait fait doux, hein, là.
Alors, on fait un bisou à Fanfan d'ailleurs, qui nous écoute.
Oui, donc ce mariage est fait. C'est fait tout simplement parce qu'il y a un concours sur.
Un concours de mariage?
Non. Il y a un concours qui est fait par un des partenaires du Tour de France et qui s'appelle Souriez, c'est votre tour.
D'accord.
Et donc, les gens envoient un petit mot en disant voilà ce que je souhaiterais, voilà mon vœu. Et puis il y a une jeune femme, Stéphanie, qui elle a joué dit je voudrais tout simplement offrir notre mariage à mon mari le jour de l'arrivée du Tour de France. Faut dire que ce sont deux fans du Tour de France et de cyclisme. Et finalement, ça a ému les jurés qui ont dit pourquoi pas. Alors finalement, ils ont donc été mariés et par le maire d'ailleurs de leur village et pas celui où nous nous trouvons, parce qu'ils sont tous les deux originaires de Blaye-les-Mines. Voilà.
Ah oui.
C'est une belle petite histoire d'amour, c'est bien.
Il y a des histoires d'amour qui se créent de toute façon sur les routes du Tour.
Eh oui.
il y en a beaucoup de belles histoires, de longues histoires. D'ailleurs, je crois qu'il y a un papier dans le JDD le dimanche prochain. Je vous conseille de le lire.
Monsieur a l'air bien concerné et bien informé.
Oh là.
Ouais. Non. On vous dit rien. Je fais du teasing.
Qui chez nous est impliqué? Qui chez nous est impliqué? Qui va se marier?
Je sais pas. On verra. Non, mais c'est des vieux mariages, mon bon monsieur. Allez, la musette, on continue un peu après les infos matrimoniales de Cyril Guimard. On va sur la moto. Georges, c'est pas le même genre de réjouissance, mais on a bien rigolé à l'étape de repos en Andorre. Hein.
Exactement, je vous parlais tout à l'heure lorsqu'on parlait de l'ascension dans Valira de 1964 et d'un certain Jacques Anquetil qui avait peut-être un peu abusé de la sangria. Vous avez peut-être vu dans les journaux ce matin une image du directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, devant une baignoire remplie de sangria. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? On est allé voir Christian Prudhomme ce matin pour qu'il nous raconte ça. Qu'est-ce qui s'est passé quand il est arrivé dans sa chambre d'hôtel avant entière en Andorre? Qu'est-ce qu'il a pu constater, Christian Prudhomme?
En arrivant dans ma chambre d'hôtel, un établissement de très très belle qualité, j'ai été surpris de voir que la baignoire était remplie d'un liquide rougeâtre et qu'il y avait une bouteille de vin ouverte et un verre à moitié rempli. Et donc je suis redescendu pour exprimer mon courroux et il y avait heureusement une personne devant moi, ce qui m'a donné quelques secondes pour réfléchir. Et je me suis dit, mais il y a 10 minutes, quand je suis arrivé, ils m'ont dit, mais n'utilisez pas pour l'instant les bains bouillonnants. Ils m'ont fait une blague. Il faut savoir que la baignoire de sangria, lorsque le Tour de France est arrivé en Andorre pour la toute première fois, en 1964, Radio Andorre avait organisé un méchoui, quel Jacques Anquetil avait participé, ce qui lui avait causé des soucis le lendemain dans le pendant Valira. Et il y avait aussi une baignoire remplie de sangria et les coureurs prenaient ça à la louche dans Jacques Anquetil. Et j'aime le Tour. Et je n'ai cessé de dire aux équipes depuis 9 mois, il faut la baignoire de sangria. Et ils ont mis la baignoire de sangria dans ma chambre. Donc une baignoire remplie de sangria. Ce qui m'a vraiment surpris, c'était un peu la caméra cachée sans caméra, parce que je n'ai vraiment pas compris. Je suis vraiment descendu pour râler en disant mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est pas possible. C'était une plaisanterie. Il y a des petits rigolos autour de moi dans l'équipe.
Vous avez trouvé le responsable?
Oui. Il s'appelle Robert Leroux et comme il a été champion du monde d'escrime, je vais pas lui en vouloir, mais je sens que le garçon a du potentiel et comme escrimeur, il en a aussi dans l'équipe du Tour de France.
Et vous l'avez pris ce bain?
La baignoire était vide à 1h44 du matin, mais je m'en suis pas occupé tout seul.
Effectivement, une baignoire de sangria, il serait dans un drôle d'état s'il s'en était occupé tout seul, notre ami Christian. Voilà, donc on fait des blagues sur la route du Tour et même le directeur de cette épreuve est victime de certains galopins. Merci Georges pour cette petite musette. Fred, on va faire un nouveau point de la course et ensuite on va accueillir nos invités ici dans notre camion RMC sur la ligne d'arrivée à Revel. Le top course.
Un peu plus de 68 km à parcourir et il y a un autre galopin à l'avant de la course. Il s'appelle Tony. Il fait partie des 15 coureurs échappés, dont 3 Français. Tony Galopin, donc Samuel Dumoulin ainsi que Sylvain Chavanel. Un groupe de 15 que l'on peut qualifier de royal, puisqu'écoutez bien qui compose cette échappée qui compte 6 minutes d'avance sur le peloton à 68 km de l'arrivée. Le champion du monde Peter Sagan, l'ancien champion du monde Rui Costa, Vincenzo Nibali, le vainqueur sortant du Giro et ancien vainqueur du Tour de France, la pépite australienne Michael Matthews, le britannique Stephen Cummings, vainqueur au lac de Payolle la semaine passée avec son équipier de la formation Dimension Data, le champion de Norvège Edvald Boasenhagen, Greg Van Avermaet, vainqueur au Lioran et maillot jaune pendant 2 jours, est accompagné de Damiano Caruso chez BMC, et puis un peu moins prestigieux, l'espagnol Gorka Izagirre, l'australien Durbridge ou le sud-africain Daryl Impey sont 15 donc sous le crachin du Midi-Pyrénées à 68 km de l'arrivée à Revel aujourd'hui, 6 minutes 20 d'avance sur un peloton emmené par 2 coureurs de la formation suisse Siam Cycling, 2 coureurs qui semblent punis de ne pas avoir réussi à mettre l'un des leurs dans le groupe de tête. A priori, le vainqueur de l'étape du jour, une étape de transition, se trouve dans cette bonne échappée aujourd'hui en direction de Revel via la côte de Saint-Féréol à quelques kilomètres de l'arrivée.
Et dans un instant, dans l'intégral tour, nous allons parler alimentation. Ben oui, il faut bien manger pour arriver à pédaler. On en parle dans un instant avec nos invités ici dans le camion RMC. À tout de suite.
RMC sur votre iPhone, c'est possible. Téléchargez tout de suite l'appli RMC.
Bon ben Fred, il faut s'y remettre là, un nouveau point complet de la course, donc à 67 km de l'arrivée, on le rappelle, avec cette échappée et ce nombre de coureurs impressionnant, avec que des pépites hein, devant, on le disait il y a quelques instants, il n'y a que du lourd et ça va sans doute flinguer un peu plus tard avant l'arrivée. Hein.
Oui, avec cette côte de Saint-Féréol, on l'a mentionné il y a quelques instants, cette côte de Saint-Féréol qui est positionnée à 7 km de l'arrivée, là même où voilà 6 ans, Alexandre Vinokourov avait faussé compagnie au peloton qui était revenu sur une échappée où se trouvait déjà, tiens, Sylvain Chavanel. C'était il y a 6 ans et Chavanel est à nouveau dans ce groupe de tête. La côte de Saint-Féréol qui permettra aux puncheurs de s'isoler, de tenter de s'isoler, et des puncheurs, il y en a bel et bien dans ce groupe de tête. On se croirait revenu en avril au printemps des classiques, les classiques ardennaises ou flandriennes. C'est au choix des coureurs comme Sagan, Van Avermaet, Boasenhagen ou Tony Galopin sont des coureurs qui sont prédestinés pour briller sur ce genre de profil. Une côte juste avant l'arrivée, donc on vous a détaillé la composition de ce groupe de tête. Un focus sur les 3 coureurs français à l'avant, fort bien représentés, les tricolores, avec des coureurs de renom, Samuel Dumoulin, puncher également, qui fait voyager son tout petit gabarit. Ferrari dans ce groupe avec de solides coureurs. Samuel Dumoulin à l'abri de la roue arrière de Peter Sagan pour l'instant. Tony Galopin, ancien vainqueur d'étape, c'était il y a 2 ans et porteur du maillot jaune. Et Sylvain Chavanel qui a déjà remporté 3 étapes. Chavanel qui va viser la victoire d'étape ici à Revel, mais aussi protéger les intérêts du sprinter Brian Coquart arrivé dans 66 km.
RMC jusqu'à 18h, Intégral Tour, Christophe Sessieux.
Pour la 10e étape de ce Tour de France, nous sommes à 64 km de l'arrivée à Revel. On va, avant d'accueillir nos invités dans quelques instants au camion RMC, repartir à l'avant de la course avec Georges Quirino qui se trouve, je crois, pas très loin d'un directeur sportif, en l'occurrence directeur sportif de la formation Direct Énergie. Georges, c'est ça ?
On se rapproche en tous les cas de la voiture Direct Énergie. C'est un peu compliqué parce qu'on est dans la traversée de Mirepoix à l'instant derrière l'échappée. Bonjour Lilian Le Breton qui est avec nous. Lilian, on voit pas trop Sylvain Chavanel coopérer pour l'instant dans ce groupe de tête. Pourquoi ?
Tout simplement parce que Brian Coquart est derrière. Et derrière, l'équipe Direct Énergie ne roule pas parce que Sylvain Chavanel est devant. Donc c'est une situation qui est un petit peu confortable, c'est vrai. Mais pour le moment, voilà, on essaye de jouer sur les deux tableaux le plus longtemps possible.
C'est un gros groupe à l'avant. Hein. Attendez, on va juste passer le rond-point là pour pas être trop en difficulté. Et on va retrouver à la sortie Lilian Le Breton. Vous savez, c'est comme ça, hein, les interviews sur la moto. On doit faire avec évidemment la route qui est face à nous. On va retrouver à la sortie du rond-point notre ami Lilian Le Breton. Voilà qui se retrouve à nous à côté de nous, qui remet son rétroviseur et qui reprend le micro. Super Lilian, parfait le relais. C'est un gros groupe devant là, ça sera compliqué avec Sagan, avec Van Avermaet, avec Matthews, pour Sylvain de s'extirper, on va dire.
Ouais, voilà, tout à fait, il y a vraiment des très gros clients devant. Maintenant, faudra essayer de trouver une solution dans le final, mais pour l'instant, il faut être patient.
Merci beaucoup Lilian Le Breton, directeur sportif de l'équipe Direct Énergie, donc dans ce groupe de tête derrière Sylvain Chavanel. Là on a touché les valises un peu, c'est étroit dans la traversée de Mirepoix, donc derrière ce groupe de tête où se trouve notamment Sylvain Chavanel.
Merci Georges. 15h40 dans le petit camion RMC, nous avons nos invités pour parler de la bouffe et le Tour de France. Bah oui, c'est important, il faut se nourrir, non seulement quand on est coureur. Ça, ce sera Pierre Carré qui en parlera dans quelques instants. Salut Pierre.
Bonjour,
Pierre, journaliste à Libé que vous connaissez, qui vient nous rendre visite régulièrement, qui vient d'écrire un bouquin. Comment s'appelle ce bouquin d'ailleurs, Pierre?
C'est le Tour de France à dévorer, tout simplement.
Voilà, à dévorer. Alors, tu t'es intéressé évidemment à l'alimentation des coureurs. On va en parler dans un instant. Et puis, à ma droite, Laurent Hété, qui est responsable des équipes Sodexo sur le Tour de France. Sodexo qui nourrit tout le monde sauf les coureurs. C'est ça, Laurent?
C'est ça. Bonjour à tous. Effectivement, on nourrit plus de 3000 personnes par jour sur la grande boucle.
Bah alors, qui vous nourrissez? Racontez-nous, parce que nous, on mange rien, hein, donc nous, on va chercher les sandwichs.
On les accompagne du matin sur le village départ.
Ah voilà, c'est les gens qui vont au village départ.
Voilà, donc pour les prestations en course, les top VIP qui ont l'honneur de pouvoir déguster un plateau repas en course dans la voiture.
Ah ouais.
Les invités du village qui ont le droit de bénéficier de l'ensemble des produits partenaires. Ce que Sodexo fait depuis 25 ans maintenant, cette année, son partenariat avec le Tour de France. Il est également, donc on les accompagne en course, comme vous le disiez, et plus particulièrement les journalistes et les motards, avec la lunch bag.
Ah oui, la lunch bag. Jérôme, est-ce que tu profites de la lunch bag pendant la course? Ah, on va ouvrir le micro de Jérôme.
Justement pas. Il y a un problème là, si on nous a oublié, il va falloir qu'on aille voir ça.
On va poser réclamation auprès de Laurent, hein, qui va se débrouiller pour.
On va régler ça à partir de demain matin. Bon, donc voilà, on a la musette et la fringale. Musette de sandwich et la fringale avec une petite salade composée en plus.
Ah bah oui, c'est bien ça.
Pour l'instant, diététique.
Regardez la ligne qu'il a, il faut pas non plus qu'il.
Il est très svelte. Je pense que l'année prochaine, il va être prêt pour le Tour de France.
Bon, ça fait 25 ans que vous accompagnez le Tour, hein. Et c'est vrai que c'est une grosse entreprise, Sodexo, pour fournir autant de repas tous les jours. Comment ça s'organise justement pour livrer des produits frais sur le Tour?
C'est un défi logistique qu'on assure depuis 25 ans. Effectivement, Sodexo gère depuis une plateforme centrale une alimentation de nos différents villages, puisqu'on a parlé du village départ, mais nous avons également le relais étape qui est situé à quelques encablures de la ligne d'arrivée, et puis les invités top VIP qui bénéficient et qui fêtent.
Alors les top VIP
VIP, eux, ils ont
les
droit à tout.
VIP,
hein.
Alors, ils ont droit au champagne à l'arrivée.
Oh là 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 là, mais vivement qu'on soit top VIP hein, sur ce Tour de France, qu'on puisse boire du champagne. Bon, important évidemment. Alors, vous le disiez, vous nourrissez tout le monde ou presque, mais pas les coureurs.
Pas les
parce
coureurs.
Parce que c'est une alimentation un peu spécifique, évidemment, quand on est sportif de haut niveau et qui plus est quand on est coureur cycliste. Hein, d'habitude, quand on les voit comme ça, on a l'impression qu'ils mangent pas d'ailleurs pendant tout le tour. Pierre, donc tu viens de d'écrire un bouquin qui raconte un peu l'histoire de l'alimentation des coureurs sur le Tour de France. Ça a bien changé d'ailleurs depuis les temps héroïques jusqu'à aujourd'hui. Hein.
Tout à fait. Au début, c'était une nourriture de survie parce que les étapes étaient très longues, il fallait manger. L'organisation ne prévoyait pas. C'était au début les équipes qui devaient nourrir les coureurs. Et entre ceux qui couraient à titre individuel et les autres, on avait évidemment des variétés énormes de menus. Certains coureurs volaient de la nourriture. Ils étaient littéralement affamés. Et puis ensuite, c'est l'organisation qui a pris en charge les équipes et qui a décidé de les nourrir toutes de la même manière. Dans les années 60, 70, ça commence à tousser un petit peu, notamment le grand Eddy Merckx estime que la nourriture servie par le Tour n'est pas fraîche, chers amis. Eh ouais, les pêches ne sont pas à son goût, la viande laisse à désirer. Et puis, eh bien maintenant, on est revenu à la case départ, c'est-à-dire que chaque équipe fait à manger pour les coureurs.
Il y a même des chefs, les équipes arrivent avec leur restauration, je crois que c'est le cas de la formation Direct Énergie. Hein.
Quasiment toutes, ouais, hein, quasiment toutes. On a encore doublé en venant vers Revel le camion du chef cooker de l'équipe Lotto Soudal. Il y a plusieurs équipes effectivement qui s'occupent eux-mêmes, elles-mêmes de leur nourriture. On ne fait plus appel au service cuisine de l'hôtel dans lequel on reste.
C'est depuis le steak de Contador, ça, non?
Ouais, c'était avant. Ça remonte à quand?
Ça jouait. Ça, c'est clair que ça jouait. Hein. Il y a eu aujourd'hui une question aussi sur la sécurité alimentaire qui est évidemment prise très au sérieux.
Le steak au Clambutérol, on le rappelle, en 2010. 10 qui avait valu à Alberto Contador d'être disqualifié de son Tour de France victorieux le dernier.
Mais ça commence déjà en 2006 en réalité. C'est Björn Riis, évidemment le moderne Björn Riis, controversé mais moderne aussi, qui décide de faire appel aux cuisiniers danois. Et dans le monde de la gastronomie, ce sont justement les Danois qui ont le vent en poupe et qui font des plats super. Aujourd'hui, plein d'équipes ont cuisiné danois. Bien sûr, Tinkoff, toujours Tinkoff. Sky, Orica, et puis je dois encore en oublier Trek, je crois, à ma connaissance aussi, prépare des petits plats nordiques.
C'est incroyable,
le fameux régime scandinave.
Les chefs français se font doubler par les Danois. Non, mais dans quel monde vit-on?
Il faut les laisser ouvrir. Nous assurons une prestation aussi pour soulever ce que disait Pierre. On suit également la sécurité alimentaire, parce que c'est notre sujet principal. C'est pour ça que dès l'annonce du parcours du Tour de France, on donne une connotation entièrement régionale. L'approvisionnement est quelque chose de primordial également pour nous, du producteur jusqu'au consommateur. Mmh. Donc c'est pour ça que notre plateforme est basée en région parisienne et achemine quotidiennement les différents villages où l'on sert nos prestations.
Pierre, le livre que tu as commis, Le Tour de France à dévorer, aux éditions Direct Vélo, a été préfacé par Jackie Durand, ancien coureur de Cyril Guimard chez Casto notamment. Plutôt bon vivant, hein, consultant chez nos amis de la télévision désormais. Dans sa préface, Jackie explique qu'il n'aurait probablement pas pu courir ou au moins se nourrir aujourd'hui en 2016 parce que les habitudes alimentaires ont radicalement changé. Lui s'autorisait des choses qu'aujourd'hui les coureurs du peloton, et en particulier sur le Tour de France, ne s'autorisent pas. C'est vrai, on est devenu très très draconien en termes d'alimentation aujourd'hui chez les pros.
Ah oui, c'est même un sujet qui fait assez peur, qui est raconté dans le livre, mais le Team Sky affame quasiment ses coureurs. On le voit de toute façon, hein, aujourd'hui leur silhouette est complètement émaciée. On n'arrive pas à connaître à 100% quelle est la composition de leur menu, mais on s'en approche, on donne quelques informations. En réalité, c'est très complété par tous les suppléments alimentaires, toutes les huiles de poisson pour apporter plus d'oméga 3. Ça, c'est une partie à la limite quasiment plus médicale que plaisir. Jackie Durand, ainsi que les coureurs de sa génération, la génération des années 90, ose aborder ce mot encore de plaisir et qui a longtemps prévalu parce que on peut pas complètement substituer la nourriture aujourd'hui, soit par des gels, soit par des bars. On part dans le livre vivre de l'intrusion de la chimie et de l'industrie chimique dans le vélo. C'est une vieille idée. En fait, dès la fin du 19e, il y a déjà des chercheurs qui proposent, évidemment, ils s'enchevillent avec des manufacturiers, ils veulent que les coureurs mangent une nourriture quasiment de robot. Et donc, il y a toujours eu ce conflit dans l'histoire du vélo, mais je pense aussi dans l'histoire des hommes, entre une alimentation plaisir et une alimentation efficacité.
Et un des premiers coureurs, justement, à avoir fait attention à son alimentation, je crois que c'était Fausto Coppi, hein, qui, justement, ne mangeait pas comme les autres sur les routes du Tour. Il mangeait quasiment comme les coureurs d'aujourd'hui.
Ben, c'était génial. Coppi, c'est vraiment le précurseur, c'est le révolutionnaire pour son époque. Donc, Coppi, on est dans l'immédiat après-guerre, années 50. Alors, il va chercher une nourriture très digeste. À la fois, parce qu'évidemment, ça permet d'être plus efficace sur le vélo, et puis, il avait une fragilité à l'estomac. C'était un
une problème. Intolérance.
Ben, c'est un problème de santé qu'il avait hérité de son père.
Il était gluten-free, Fausto Coppi.
C'est une mode aussi dont on parle, hein, forcément. Il y en a beaucoup des gluten-free aujourd'hui. Non, mais Coppi faisait par exemple la viande marinée toute la nuit. Il mettait la viande avec du jus de citron, avec de l'olive, et donc la viande était comme ça plus facile à assimiler. Et puis c'est quelqu'un qui déjà était avec des jus, de légumes, très conseillé par le docteur. Enfin, le docteur, il n'est pas docteur, mais Messeguet et Guy Lord Hauser aussi, qui était le diététicien des stars à Hollywood. Et le menu de Coppi est génial. Il a évolué au fil de sa vie. C'est quelqu'un de très méticuleux. Mais franchement, l'histoire de Coppi, c'est des clous du bouquin, parce que grand champion et grand champion de la nourriture.
Et déjà en avance sur son époque dans les années 50. Jérôme, un petit mot, tu as quitté le peloton l'année dernière. Bon, t'as pas trop grossi depuis quand même, hein, t'as conservé la ligne. C'est vrai que tu bois que de l'eau, ça doit être pour ça.
Jérôme... Il a jamais été très sec, Jérôme, hein, sur le vélo. Ah, ouais, hein.
Non, on a toujours pas de micro pour Jérôme Pinault, donc on va essayer de le monter. Ça marche. Jérôme, l'alimentation aujourd'hui, est-ce que c'est encore un plaisir pour un coureur cycliste sur les routes du Tour de France? Ou alors, on pèse tout ce qu'on mange avant une course, il faut vraiment être le plus maigre possible pour essayer d'être compétitif?
Ouais, ça c'est la nouvelle lubie, nouvelle mode. Aujourd'hui, les coureurs, on parle de gluten-free. Beaucoup de coureurs, et notamment chez Yam Cycling, sont gluten-free. On a très peu de plaisir à passer à table. Maintenant, on mange souvent la même chose. On a du mal à faire varier puisque les coureurs sont demandeurs, hein, de ce genre de menu. Moi, j'avais jamais autant mangé de quinoa que mes deux dernières années. Le quinoa est très à la mode. On parlait de plaisir. Moi, je fais partie de cette, alors pas des années 90, celle juste après, mais je faisais partie de cette génération-là, plaisir ou de passer à table. Et c'était aussi un moment important et aussi un peu pour sortir de la course. Et c'est vrai que depuis 4, 5, 6 années, on a de moins en moins de plaisir à passer à table parce que le menu est établi uniquement et seulement en fonction de l'étape passée et de l'étape du lendemain. On va vers la performance même dans l'assiette, et c'est vrai que on trouve plus le plaisir qu'on pouvait trouver par le passé à faire un petit écart, une petite glace. Moi, je me souviens que sur le Tour de France, j'étais avec mon ami Didier Rousse qui, dès que je prenais une tarte, et il me disait souvent avec son accent, mais elle est nécessaire au salola, qui me disait, mais je la prenais quand même, tu vois, je la mangeais quand même. Aujourd'hui, c'est pas question, hein, tout est établi, on nous fait des espèces de semblants de desserts pour que la beauté, l'image est belle, mais au goût,
c'est moins ça, quoi. Laurent, ça donne pas envie d'aller nourrir les coureurs du Tour de France, non, quand on entend
vraiment,
ça.
Je suis vraiment dans l'instant plaisir.
En revanche, on parlait tout à l'heure de truck, et c'est vrai que les premiers arrivés avec un vrai truck, avec un camion cuisine, où les coureurs même dînent dedans, c'est l'équipe directe, anciennement Bouygues Télécom, puis Europcar, puis Direct Energy. Là, en revanche, il y a un vrai plaisir. Le chef, qui est français, qui est le papa d'ailleurs du chauffeur de bus, là, on travaille en famille. Lui connaît ses coureurs et connaît les plaisirs, et tant qu'il y a du Chavanel et du Vauclair dans cette équipe, je pense que il y aura toujours une bonne bouteille de rouge, un bon pain et quelque chose de sympa à manger.
Malheureusement, hein.
Dans le livre de Pierre Carré, le Tour de France à dévorer, on apprend également qu'il y a, Pierre, un vainqueur du Tour qui était végétarien. Ça existe dans le peloton?
Eh oui, il y en a pas beaucoup. Alors on en voit aussi maintenant de plus en plus, hein, parce que cette mode du sans gluten répond un petit peu à la mode. On n'en mange pas, hein, on mange pas de gluten, et il y en a aussi qui commencent à faire très attention, à limiter, voire supprimer la viande. Mais alors, on a eu, c'est vrai, un vainqueur du Tour de France végétarien, c'était en 1937.
Ah oui, donc
Roger Lapébie.
Avant que ce soit
Roger Lapébie himself.
Et oui, parce que tout simplement, à l'époque, c'était à la mode. On sortait des Jeux Olympiques de Berlin, un certain nombre d'athlètes étaient végétariens, surtout les Allemands, surtout les Scandinaves, et donc il avait fait quelques expérimentations sur lui. Roger mangé la pébille, le bordelais, et il s'est dit, bah écoutez, je vais m'y mettre.
Cyril, Jérôme, vous avez connu des coureurs végétariens dans le peloton ?
Moi, pas à ma connaissance. Des coureurs qui mangent très peu de viande. Sébastien Rachenbar de l'équipe FDJ maintenant, qui était avec moi chez M, ne mange pas ou peu de viande. Il n'y en a pas beaucoup.
Je n'ai pas connu de coureurs végétariens. J'ai connu des coureurs qui préféraient éventuellement des viandes blanches aux viandes rouges, mais qui ne crachaient pas sur une bonne entrecôte de temps en temps, ou qui aimaient de temps en temps avoir du poisson. Mais végétarien, non. Alors tout existe, hein, il faut tout pour faire un monde. Mais sur le plan de l'alimentation, dès les années 60, 78, 79, j'avais déjà commencé moi à mettre en place un système qui était bien différent de ce qu'il est aujourd'hui, mais qui ne manquait pas d'efficacité. C'est-à-dire que nous avions un cuisinier qui venait collaborer avec le cuisinier du restaurant, voilà. Mmh. Et c'était aussi très efficace. Nous n'avions pas de problème ou rarement de problème digestif.
Voilà. Vous mangez du quinoa comme Jérôme Pinault ou non, Cyril?
Non, à l'époque, ça n'était pas
c'était des pâtes plutôt, hein.
C'était pas la mode. Le blé n'était pas encore arrivé parmi les possibilités alimentaires. Donc on était sur les pommes de terre, sur les pâtes et sur le riz. C'était les trois plus importants, plus bien sûr les légumes qui allaient avec.
Cyril qui mangeait davantage de chinois que de quinoa, hein. Beaucoup plus chinois.
Des fois j'avais des coureurs qui cherchaient des chinoiseries.
Ah, des chinoiseries.
Avec Greg Lemond par exemple, qui quand même t'a bien bousculé, Cyril, à l'époque, avec ses habitudes Tex-Mex.
Il y a ce qui est raconté. Et
c'est
puis,
dans le bouquin. Hein.
Et puis la réalité, Greg.
Nous aurait menti alors.
On m'aurait menti à l'insu de mon plein gré. Non, il aimait bien de temps en temps. Par exemple, il aimait les glaces. Enfin, il y a quelques produits qu'il aimait prendre parce que ça faisait partie de sa culture et qu'il en avait besoin. Ouais. Mais pour le reste, il mangeait.
Il mangeait ce qu'on lui servait.
Il mangeait comme nous, sauf que. Il lui fallait sa glace. D'ailleurs, nous, on disait, les glaces, c'est pas bon. Enfin, quand je dis nous, la mode. Parce que le problème de la nourriture, c'est des problèmes de mode. Il faut pas l'oublier, hein. Et donc, à un moment, fallait pas manger de glace ou fallait pas manger de ci. Et lui disait, mais la glace, c'est bon. Le lait, c'est bon. Et il disait, mais tout ce qui est dans la glace, c'est bon. Alors pourquoi j'en mangerais pas ? Et donc ça nous faisait marrer, mais faut bien dire une chose, c'est que il y a des habitudes alimentaires qu'il ne faut, enfin c'est mon avis, hein, qu'il ne faut en aucun cas modifier de façon brutale et profonde. Ouais. L'organisme est habitué à en gérer des choses. Hein.
Très bien. Voilà donc pour ce débat concernant l'alimentation qui est évidemment très important. Et on a bien
ça
vu
y est, ça y est, j'ai plus faim moi.
On ne mange pas les mêmes choses quand on est super VIP. Les gens que sert Laurent Hété, donc Sodexo, et lorsqu'on est coureur cycliste. Merci Laurent d'être venu.
C'est moi qui vous remercie.
Hein, et continue de bien nourrir tout le monde sur la route du Tour.
C'est ça depuis 25 ans et on va continuer encore de longues années, je pense.
Et ben j'espère pour vous, hein, qu'on va encore pouvoir manger sur les routes du Tour. Merci Pierre de nous avoir rejoint également. On rappelle, le Tour de France à dévorer, c'est aux éditions
Direct Vélo.
Voilà, bah c'est parfait. J'espère qu'on vous en a appris quelques-unes. Fred, rapidement, à 50 km de l'arrivée, un tout petit point sur la course, 5 minutes 25 d'avance.
Oui, on s'est permis cette aparté culinaire parce que c'est une étape de transition aujourd'hui et qu'il reste encore plus de 51 km à parcourir en direction de Revel, une échappée de 15 coureurs avec 5 minutes 30 d'avance sur un peloton emmené en ce moment par les Direct Energy de Brian Coquard. Notez la présence de Sagan, Rui Costa, Nibali, Matthews, mais aussi des Français Galopin, Chavanel et Dumoulin dans ce groupe de 15 avec 5 minutes 30 d'avance à 50 km de l'arrivée.
Allez, dans un instant, les infos de 16h et on revient pour vous faire vivre le final de cette étape. 50 km à parcourir encore avant l'arrivée à Revel. À tout de suite.
RMC jusqu'à 18h, Intégral Tour.